Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une nouvelle, on va le dire, qui tombe assez mal. Le Danemark suspend à son tour le vaccin AstraZeneca après un décès par thrombose. L'Islande et la Norvège ont suivi aujourd'hui. Un lot suspect avait déjà été retiré, c'était en début de semaine dernière, en Autriche, après la mort d'une infirmière de 49 ans. À chaque fois, des enquêtes sont en cours. Le lien n'est pas encore clairement établi, mais ces mesures de précaution jettent le discrédit sur un vaccin déjà mal né. En attendant, nous pouvons maintenant compter sur un quatrième vaccin en une seule dose, cette fois le Johnson & Johnson, qui pourrait permettre d'accélérer enfin la campagne de vaccination. Encore faut-il que les doses arrivent à temps, alors que l'Europe enregistre de nombreux retards. Alors que sait-on vraiment des effets secondaires du vaccin AstraZeneca? Quelle est l'efficacité du dernier arrivé sur le marché? Pourquoi la vaccination patine encore en France? AstraZeneca, le virus du doute, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Ève Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France. À la une de votre journal ce jeudi, les quatre vaccins au banc d'essai, nous y reviendrons longuement ce soir. Benjamin Davidot, vous êtes infectiologue, directeur médical de crise et référent vaccin Covid à l'hôpital HPAP Raymond Poincaré de Garches. Avec nous ce soir, Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Lille, directeur général de la Fondation Alzheimer. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Avec nous ce soir également, Isabelle Horry, vous êtes la correspondante à Bruxelles pour Europe 1 et la radio-télévision suisse. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va commencer avec vous, Ève Roger, pour faire un point sur ce qu'on a appris aujourd'hui sur le vaccin AstraZeneca. Évidemment, ça tombe mal.
Ah, ça, c'est sûr. On a l'impression que ce AstraZeneca est poursuivi par la poisse. Hein. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire que l'Islande, le Danemark et la Norvège ont décidé de suspendre l'usage de ce vaccin par précaution. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé ils disent attention, il y a des effets secondaires. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des effets de thrombose, c'est-à-dire des caillots qui se forment dans le sang, et que parfois, les thromboses, ça peut faire des embolies pulmonaires. Alors, effectivement, ce sont des pays prudents qui ont décidé d'attendre les résultats des études pour savoir s'il y a vraiment un lien. Mais l'Agence européenne du médicament a déjà dit dès aujourd'hui qu'il n'y avait pas de lien établi et qu'il y avait eu 22 cas de thrombose pour 3 millions de vaccinations. Donc, ça donne encore... L'AstraZeneca a une image qui est terrible et ça rajoute quelque chose contre l'AstraZeneca. Mais il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent et qui vont se faire vacciner.
Ou qui se sont déjà fait vacciner ces derniers jours.
Voilà, c'est ça. C'est un principe de précaution.
C'est quoi une thrombose, peut-être, rentrer dans le détail, Benjamin Davidot ?
Non, mais c'est une phlébite, en fait, dans le jargon médical. Et puis les complications, comme ça a été évoqué, sont l'embolie pulmonaire, ça fait peur. Mais ce qu'il faut bien rappeler, d'abord, si on fait le rationnel 22 sur 3 millions, oui, c'est un événement extrêmement rare. Hein, et il n'y a pas de lien de causalité, c'est ça qu'il faut rappeler. Et donc, la prévalence, c'est-à-dire la survenue dans la population générale d'une thrombose, est plus fréquente que le lien avec la vaccination aujourd'hui. Et les premiers résultats de l'Agence européenne du médicament vont contre un lien de causalité entre la vaccination et cette observation des faits indésirables.
Alors, c'est vrai que dans ces cas-là, je me tourne vers vous, Philippe Amouyel, on a évidemment envie de relativiser. Les chiffres qui viennent d'être donnés permettent de relativiser. Mais malgré tout, il y a ces informations que les gens reçoivent cet après-midi. En fin d'après-midi, il y avait aussi ce qui s'est passé en Autriche, je le disais. La suspension d'un lot de vaccins, 1 million de vaccins qui avaient été suspendus. Ça a été le cas aussi pour ce lot cet après-midi qui ont été retirés de la vaccination en Italie après la mort d'une infirmière d'une quarantaine d'années, 48 ans. Philippe Amouyel, le problème, c'est que des informations comme celle-ci, même si médicalement et quand on fait un ratio avec le nombre de vaccinés, je veux dire, c'est pas grand-chose, malgré tout, ce sont des informations qui jettent un discrédit, qui jettent un doute.
Oui, c'est sûr, et que déjà le vaccin d'AstraZeneca n'avait pas nécessairement bonne presse. Mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est que n'importe quel produit a des inconvénients. Ça a été très bien montré par mon confrère il y a quelques instants. Le risque en population de faire une phlébite est de l'ordre de 1,6 pour 1000. Et là, on a des risques qui sont de l'ordre de 7 par million. Donc c'est vraiment infime. Et la probabilité d'avoir les deux par le simple fait du hasard est extrêmement importante. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir ce type d'alerte tout au long de la vaccination. C'est quand même la première fois qu'on va vacciner à peu près 6 milliards d'individus sur la Terre. Et on va donc avoir des associations qui vont apparaître, des doutes. Mais ce n'est que de la prudence. ça ne change rien par rapport aux objectifs.
Mais est-ce que c'est un excès, une surréaction de la part des autorités du Danemark ou les autorités norvégiennes? Vous voyez, vous êtes en train d'expliquer les uns les autres qu'au fond, si on fait le ratio par rapport aux personnes vaccinées, c'est pas grand-chose. Et au final, la décision de suspendre, ils savent bien, ils anticipent sur les conséquences que ça peut avoir dans l'opinion. C'est un excès de précaution à vos yeux, Philippe Amouyel?
Alors, ça doit être observé, ça doit être décrit. De là à suspendre immédiatement avec cette fréquence-là, alors éventuellement sortir le stock de concernés ou incriminés, pourquoi pas. Je trouve qu'ils vont un petit peu loin, surtout que l'IMI, l'Agence européenne du médicament, elle a donné un avis en les analysant. Et surtout, on n'a pas eu ce genre d'alerte dans le pays qui a le plus vacciné avec le AstraZeneca récemment, qui est le Royaume-Uni.
Et le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, qui a tenu à faire une déclaration justement sur le vaccin AstraZeneca. Les autorités britanniques ont estimé que ce vaccin était toujours sûr et efficace. Naturellement, ils ont fait toute leur campagne de vaccination carrément avec ce vaccin. Peut-être Isabelle Horry sur les conséquences que ça peut avoir sur la confiance qu'ont les Européens en ce vaccin.
Vous savez, je trouve que c'est très intéressant parce que régulièrement, on nous dit les Européens sont en retard sur la vaccination et regardez comme les Britanniques font bien. Et ce qui est très frappant, c'est que voilà, les Britanniques, ils ont assumé de prendre un risque et nous, finalement, à la moindre alerte, eh bien, on va vers le principe de précaution. Alors, je ne sais pas s'il faut le déplorer ou s'en réjouir, mais on voit que dans ce cas précis, c'est une bonne illustration de cette grande différence de mentalité entre les Européens du continent et les Britanniques.
Comment ça se passe pour les enquêtes, Philippe Amouyel? On dit, en gros, il n'y a pas de lien établi. Est-ce qu'un jour, on établira un lien? Est-ce que ces enquêtes-là peuvent prendre des semaines, des mois, des années?
Je pense que dans le contexte actuel, non. Elles vont être faites rapidement à cause de tous les enjeux qu'on vient d'évoquer à l'instant. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est le système de pharmacovigilance. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre événement, quelle que soit sa nature, qui survienne dans ces populations, surtout s'ils sont graves, il doit être déclaré. Et ensuite, il y a une étude qui va regarder s'il y a un lien de causalité, si on le retrouve dans plusieurs pays. Enfin, il y a des tas de moyens d'y arriver. Mais je pense que dans le cas particulier, ça ira très vite. Rappelez-vous, quand on avait essayé les différents vaccins, que ce soit celui de Pfizer ou celui d'Astra, pendant les essais, il y avait eu des stops complets de l'essai, le temps d'enquêter sur un événement qui semblait grave. Donc, on est toujours dans la même logique sur des événements qui sont extrêmement peu fréquents en regard du risque qu'on court de faire une forme grave de la maladie du Covid-19.
Benjamin Davido.
Oui, non, je pense que d'abord, c'est bien de rappeler cet effet indésirable, ce qu'on appelle l'événement thrombolique n'avait pas été décrit lors des phases 3, ça c'est déjà un élément rassurant. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait plus de données, comme ça a été expliqué, c'est-à-dire aussi des patients atteints de ces thromboses, parce que par exemple, on peut imaginer que récemment en Europe, l'élargissement de la campagne de vaccination Astra avec des catégories d'âge plus importante et peut-être elle aussi responsable du fait qu'on observe plus. C'est-à-dire que si vous vaccinez des gens plus vulnérables, souvenez-vous, on avait bloqué à cette barre symbolique, on avait dit que le vaccin AstraZeneca était le vaccin des jeunes. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. On a parlé aussi des numéros de lot, même si le numéro de lot incriminé est celui qu'on a majoritairement en Europe, dans les 17 pays et notamment en France. Et donc je pense qu'il faut être prudent. Ça veut dire que le système de pharmacovigilance fonctionne. Et donc dans ce sens, il faut s'en réjouir. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut stopper la vaccination.
Le problème, c'est que c'est un vaccin qui est déjà réputé pour ses effets secondaires.
Alors oui,
Alors qu'ils sont évidemment moins graves.
Voilà, alors les effets secondaires, il y a eu une sorte de rumeur urbaine qui était vraie. C'est-à-dire que les soignants se sont plaints, surtout les soignants plutôt jeunes, se sont plaints d'avoir des effets secondaires, des maux de tête, de la fièvre, de la fatigue pendant 48 heures. Donc ça a été dit partout, ils ont déposé 48 heures d'arrêt de travail. Bon, après, c'est vrai que, vous vous souvenez, M. Vaccin, la Fécher nous a dit, ce sont effectivement des effets secondaires qui touchent particulièrement les jeunes. Donc c'est parce que c'était les soignants jeunes qui avaient ces effets secondaires et qui touchent aussi les gens qui ont déjà eu le Covid, ce qui était aussi le cas des soignants. Donc en fait, ils cumulaient tout le profil chez qui les effets secondaires étaient forts. Donc c'est vrai que 48 heures...
Mais il y a plus d'effets secondaires, on va dire les choses, il y a plus d'effets secondaires avec un vaccin type AstraZeneca qu'avec le Pfizer.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, entre le Pfizer et Moderna, il y a très peu d'effets secondaires ou peut-être quelques douleurs à l'injection, mais c'est tout. Alors le prochain qui arrive, on en parlera tout à l'heure. Oui. Il y a aussi, il est un peu décrit quelques effets secondaires de cette forme-là. Enfin, 48 heures d'effets secondaires, ça ne peut pas empêcher de se faire vacciner. Donc ça, c'était la première critique qui a été faite à l'AstraZeneca. La deuxième qui a été faite, c'est que ça ne marchait pas sur les personnes de plus de 65 ans. Nous avons eu la preuve, après, grâce à l'étude écossaise, que ce n'était pas le cas. Et la troisième, c'est que ça ne marche pas sur le variant sud-africain. Alors, on en a parlé ici déjà, je m'en souviens. Ça ne marchait pas. On a eu des preuves et les études portaient sur des populations très jeunes. Alors, c'est vrai, mais depuis, moi, j'ai appris que si vous pouvez vous faire vacciner par l'AstraZeneca, enfin, je parle sous le contrôle de tous les médecins, et avec un troisième rappel d'un autre vaccin qui est efficace contre le variant sud-africain, et ça marche très bien aussi. Donc, je ne suis pas là pour défendre l'AstraZeneca, mais c'est vrai que...
C'est-à-dire qu'on va en avoir un peu besoin, parce que du AstraZeneca, on en attend 6 millions de doses ce mois-ci, 9 millions en avril et 17 millions en mai.
C'est vrai, mais vous savez à quel point les livraisons attendues ne sont jamais celles qui arrivent.
Non, on a bien compris, on va en reparler aussi de la question européenne. Philippe Amouyal, sur la question des effets secondaires concernant le AstraZeneca, alors il y a à la fois donc, ces cas de thrombose qui ne sont pas forcément liés, on en a parlé encore une fois, la vaccination, ça c'était le début de l'émission, et puis il y a ces effets secondaires et certains disent « moi je n'ai pas envie de me taper 2 jours de fièvre », etc. Ça vous met en colère quand vous entendez ça ?
Oui, franchement, parce que il y a une chose qu'on ne dit pas sur les vaccins Pfizer et Moderna, c'est que leur effet secondaire apparaît le plus souvent à la deuxième injection. Et à la deuxième injection, on a le même type de trouble. Et il est clair que quand vous prenez 1 g de paracétamol, même en préventif quelques heures après, vous passez cette phase qui est très légère. Donc comme on a beaucoup de vaccinations première dose sur le Pfizer et moins de seconde dose, sur les secondes doses, on a le même genre d'effet.
Benjamin Davido.
Non, juste pour rebondir sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire que si on regarde les choses dans la globalité et qu'on sort finalement de cette vaccination Covid, on sait que le vaccin grippal, chaque année, si vous regardez dans ce qu'on appelle les RCP, les recommandations caractéristiques produits, c'est 25% de syndrome grippaux post-injection. Et on n'en parle jamais.
Non.
Donc, si vous voulez...
On est un petit peu traumatisés dans la période, vous pouvez nous pardonner.
Il y a deux poids, deux mesures. Et c'est ça, je crois, qu'il faut comprendre. Ouais. Et il ne faut pas tomber dans un espèce de piège un peu conspirationniste. Aujourd'hui, on faut se féliciter qu'on a de plus en plus de vaccins. Et malheureusement, ça veut dire que ça reste un médicament, le vaccin, qu'on verra des effets indésirables. Vous regardez la notice du paracétamol de n'importe quel médicament.
Mais il y a des gens qui vous regardent ce soir, je suis sûre. Hein. Je suis sûre qu'il y en a, et qui se disent « j'en veux pas du AstraZeneca ».
Oui,
je vais attendre de pouvoir aller faire mon marché, c'est la une du Parisien d'ailleurs aujourd'hui, on va y revenir, et de dire je préfère choisir ou attendre le Moderna, le Pfizer, etc.
Eh bien, je leur réponds, c'est une grave erreur, parce que dans l'intervalle, ils ont plus de chances de se contaminer que d'avoir un effet indésirable lié à la vaccination.
Alors, il y a ce qui s'est passé avec AstraZeneca, puis il y a quand même la bonne nouvelle du jour. Un nouveau vaccin a été validé par l'Agence européenne des médicaments, le Johnson & Johnson, qui s'utilise en une seule injection. C'est une nouvelle promesse d'accélérer les campagnes de vaccination. Mais aujourd'hui, en Europe, on l'a dit, hein, c'est un autre vaccin qui attire l'attention. L'AstraZeneca suspendu le même jour dans 3 pays. Mélanie Nunez et Emma Vincent.
Il est de nouveau sous le feu des attaques. Déjà décrié pour son manque d'efficacité, le vaccin AstraZeneca vient d'être suspendu par plusieurs pays européens, dont le Danemark, l'Islande et la Norvège, pour des effets secondaires, des thromboses et des caillots sanguins. Dans la foulée, l'Agence européenne du médicament publie un communiqué.
Le nombre de thromboses chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population.
Qui dit vrai ? En tout cas, cette crainte prend le pas sur ce qui était censé être la bonne nouvelle du jour. Un quatrième vaccin vient d'obtenir le précieux sésame. Feu vert de l'Europe pour le vaccin américain de Johnson & Johnson. Déjà dans les cartons, il s'apprête à changer la campagne de vaccination. D'abord, il ne nécessite qu'une seule dose, contrairement aux vaccins Pfizer et Moderna. Il est un peu moins efficace, à 66%. Mais il atteint 85% d'efficacité contre les formes sévères de la maladie.
Il va jouer un rôle qui ne va pas être déterminant, mais qui va être un accélérateur de la vaccination. Il apporte une valeur ajoutée essentielle, qui est la monodose qui sera probablement la règle dans les vaccins à venir de deuxième génération.
Les premières doses devraient arriver en France d'ici mi-avril, le temps de les produire.
C'est un vaccin qui se prête tout à fait à cette campagne de masse. Donc, puisqu'il n'est pas nécessaire de faire revenir les personnes au bout de 4 à 6 semaines pour une deuxième injection. Donc, c'est un plus. Maintenant, la seule inconnue qui demeure, c'est est-ce que nous serons livrés à temps avec les quantités de vaccins qui ont été promises.
Ce vaccin, qui utilise la technique du vecteur viral, sera en tout cas plus facile à stocker. Il se conserve dans un simple réfrigérateur. Le week-end dernier a marqué un tournant dans la campagne de vaccination en France.
Un tout petit pic et c'est tout. Vraiment rien. Hein.
220 000 personnes vaccinées samedi et le gouvernement veut maintenir le rythme. Grâce à des vaccinodromes, 100 nouveaux centres comme celui-ci ont ouvert en Île-de-France.
C'était pas évident de relever ce défi, qu'à quelques heures, on nous demande de mobiliser autant de médecins, autant d'infirmiers et pouvoir vacciner autant de monde en même temps. Je pense que ça fonctionne correctement.
Mais hors des vaccinodromes, cela se complique.
Je vous mets un petit pansement.
Ah oui, je veux bien.
C'est pour vous rappeler que je vous ai piqué.
Fatima Saïd d'Auvergne est infirmière libérale. Elle ne peut vacciner qu'accompagnée de cette médecin généraliste. Une complexité administrative qui l'empêche de vacciner ses patients les plus isolés.
Il souhaite être vacciné par le professionnel de santé dont il a l'habitude. Nous le faisons sur la grippe, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que là, on a une pandémie qui est moins identifiable que la grippe qu'on ne peut plus vacciner.
Le gouvernement compte sur les pharmacies pour accélérer la cadence. Une vingtaine d'entre elles ont pu commencer à vacciner il y a 2 jours.
On m'avait inscrit sans doute sur une liste d'attente. Et on m'a rappelé pour me dire que je pouvais passer cet après-midi.
Les autres doivent attendre lundi. Les pharmacies ne peuvent utiliser que les doses AstraZeneca, seul vaccin pouvant être administré sans la présence d'un médecin. Mais ils doivent guetter d'éventuels effets secondaires.
C'est sûr que ça rassure. On se demande toujours des vaccins comme ça qui sont pratiquement inconnus, ce qui peut arriver après. Mais bon, il faut avoir confiance aussi. Hein.
Source de crainte. La diversité des vaccins semble pourtant le seul espoir d'amélioration à moins d'une semaine du premier anniversaire du confinement.
Encore une question ce soir, Philippe Amouyel, sur le vaccin AstraZeneca. Et cette question, les phases de test avec AstraZeneca ont-elles été effectuées sérieusement?
Oui, bien sûr, elles ont été effectuées sérieusement. Il n'y a pas eu de remarques particulières. La seule différence, c'est que la répartition des individus qui ont été recrutés a fait surtout une part importante aux personnes de moins de 65 ans qui a limité, mais maintenant on commence à avoir l'habitude, on sait qu'il y a de bons résultats, donc non, il n'y a pas eu d'éléments particuliers.
En termes d'efficacité, puisque nous allons passer tout à l'heure les autres vaccins au banc d'essai, en termes d'efficacité sur les cas graves de la maladie, on est à combien avec le vaccin AstraZeneca, Philippe Amouyel?
Alors, ce qui est intéressant avec le vaccin AstraZeneca, c'est qu'on était aux alentours de 66-70%, et puis on s'est rendu compte en fait que quand on attendait un peu plus longtemps pour l'injection de la deuxième dose, on pouvait arriver sur les cas graves à peu près 90-95% d'efficacité si on vaccine aux alentours du troisième mois. Donc c'est quelque chose qui se retrouve pour la plupart des vaccins actuellement, c'est-à-dire que plus on attend, plus l'effet sur les formes sévères est aussi efficace que ce qu'on peut retrouver chez Pfizer ou Moderna.
Et parlons du nouveau venu.
Voilà, Janssen.
On a un nouveau vaccin.
Voilà, il est américain, Johnson & Johnson. Et Janssen, c'est sa filiale belge. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc, on l'a entendu, on entend que ça, c'est monodose, ça veut dire une seule dose qui permet de vacciner le double de personnes. Ça, c'est sa première caractéristique. Et puis, la deuxième, c'est qu'effectivement, sur les formes sévères, il a aussi une très bonne efficacité, puisqu'on est autour de 85%. Quels que soient les variants, dit-on même. Donc, alors, ça veut dire qu'il arrive, celui-là, avec. J'allais dire, comme on disait chez moi, il a les 4 pieds blancs, quoi, le Janssen et Janssen. Les soignants disaient non, on ne va pas prendre l'AstraZeneca, on va attendre le Janssen parce qu'on savait qu'il allait arriver. Bon, alors ça c'est ses caractéristiques positives. Après, c'est vrai qu'en termes de nombre de doses, pour l'instant, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont proposé d'arriver au mois de mai, puis finalement, le gouvernement, l'Union européenne a fait un peu le forcing. On aura 1 million de doses au mois d'avril, et encore, elles ne sont pas arrivées.
Donc, on devrait avoir 2,7 millions.
Voilà. Et on n'en a plus qu'un.
On n'en a plus qu'un, et on doit. Alors, ce qui est prévu, hein, 8 millions de doses prévues fin juin.
Voilà, c'est ça. Donc, on se rend compte que maintenant, on peut donner des millions de doses pour tous les vaccins, mais que ce soit pour Pfizer, Moderna, un peu moins peut-être, et AstraZeneca, c'est systématique. Il y a toujours un grain de sable et on ne peut pas faire autrement parce qu'on parle là de capacité industrielle ahurissante, hallucinante et inédite surtout.
Et Benjamin Davido, on a des gens qui, c'est à la une du Parisien aujourd'hui, hein, qui font un peu leur marché et qui disent, voilà, je veux plutôt le Pfizer, je veux plutôt le Moderna, parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de moins d'effets secondaires. C'est vrai qu'ils reviennent de loin, hein, ces vaccins aujourd'hui qui sont plébiscités.
Oui, et au final, la bonne nouvelle, encore une fois, c'est comme on a beaucoup de vaccins, finalement, il y a un choix inhérent qui s'opère.
Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, une petite parenthèse.
On est bien d'accord, voilà. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on va arriver dans une stratégie où probablement, et comme ça a été bien expliqué aujourd'hui, les essais cliniques ne montrent pas de différence sur les catégories. Hein. La seule, à mon avis, où il y a un principe de précaution encore qui n'est pas levé, c'est la femme enceinte, hein, où on peut vacciner pour l'instant avec les vaccins ARN messagers. Et très clairement, on va arriver sur d'autres techniques de vaccins. On aura ensuite ce qu'on appelle des vaccins antigéniques, qui sont plus proches des vaccins conventionnels, puisque là, tous ces vaccins sont des vaccins technologiques. Et le plus on aura de vaccins, le plus on va arriver dans une espèce de démocratisation. Oui, il y en a d'autres qui sont attendus. Il y a notamment un vaccin ARN messager, CureVac, pour des techniques de conservation. Il y a le vaccin Novavax, qui sera un vaccin antigénique. Il y a d'autres vaccins. Le point d'interrogation, est-ce qu'à un moment donné, en Europe, on aura le vaccin Sputnik ? Mais la plupart utilisent toutes les mêmes techniques et on va arriver sur un éventail de vaccinations très important, ce qui permettra de vacciner de façon très importante. Et d'ailleurs, chaque année, quand on vaccine contre la grippe, il y a deux vaccins différents et les gens ne font pas le distinguo. Donc on est vraiment dans quelque chose de très pointu qui revient aux médecins. Et puis juste un mot pour revenir sur le Johnson. Je serais prudent parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'études scientifiques dans les grandes revues qui nous montrent à court terme le fait d'une seule dose. L'essai a été designé une dose versus deux doses avec des schémas, comme ça a été expliqué, 4 à 6 semaines, mais on n'a pas de données au-delà de 100 jours. Et il n'est pas exclu qu'à un moment donné, le laboratoire revienne sur sa copie et qu'il fasse faire un rappel. Donc il faut rester prudent là-dessus.
Philippe Amouyel, vous qui passez votre temps à lire les études cliniques concernant tous ces vaccins, ils se valent tous, ces vaccins, en termes d'efficacité, concernant notamment les variants, variants sud-africains, variants anglais, mais en particulier variants sud-africains, quand on les passe au banc d'essai, sincèrement?
Alors, il n'y a pas eu d'essai comparatif entre les vaccins. Hein. C'est une vraie question qu'on peut se poser sur les nouveaux vaccins qui risquent de sortir. Ce qu'on peut dire, c'est que l'OMS avait fixé comme limite d'efficacité pour retenir un vaccin, 50%. Ils sont tous au-dessus de 50%, ce que n'atteint pas la plupart des virus contre la grippe. Donc c'est déjà ce dont il faut se rendre compte. Ensuite, il y a plusieurs effets. Il y a les effets, bien sûr, sur les formes sévères et les formes modérées. Et sur les formes sévères, si on prend l'exemple du Johnson & Johnson, à 49 jours après la vaccination, il n'y a eu aucune forme sévère grave qui soit apparue. Donc au bout d'un certain temps, on arrive à contrôler ces formes qui sont les plus graves et qui amènent les gens en réanimation. Après, pour ce qui est de la transmission du virus, est-ce que ça va nous apporter l'intérêt dans l'immunité collective? Ça, c'est une autre question. On a des hypothèses avec les données israéliennes en particulier, mais il va falloir encore attendre un petit peu là-dessus.
Isabelle Horry.
Grosso modo, ils se valent. Oui. Alors, le seul élément sur lequel ils ne se valent peut-être pas, c'est la facilité d'utilisation. Si on veut faire une campagne de masse, il faut plutôt des vaccins type AstraZeneca ou Janssen, Johnson & Johnson, parce qu'ils sont utilisables en... hors de conditions drastiques, en particulier de chaîne du froid.
Isabelle Horry, la nouvelle est venue des instances sanitaires européennes, de l'Agence européenne du médicament sur Johnson & Johnson. Est-ce que dans tous les autres pays européens, de ce que vous en savez, il y a toujours cette façon de vouloir les passer les uns et les autres au banc d'essai? Est-ce qu'il y a cette suspicion sur le AstraZeneca ailleurs? Comment est-ce que c'est perçu au niveau européen?
Oui, il y a le même genre de réticence dans un certain nombre de pays. En Allemagne, par exemple, on a aussi du mal à écouler les doses d'AstraZeneca. Il y a globalement dans l'Union européenne, je crois, à peu près un quart des doses qui ont été livrées qui sont toujours dans les frigos. Et apparemment, ce sont pour l'essentiel des doses d'AstraZeneca. Donc oui, il y a un problème de perception sur ce vaccin-là depuis le début. Il y a eu des déclarations maladroites aussi de dirigeants politiques, notamment d'Emmanuel Macron, qui avait émis des doutes sur son efficacité. Et c'est vrai que depuis, il a beaucoup de mal à s'en remettre. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui va l'arranger. Pour un petit peu quand même nuancer sur les livraisons, c'est vrai que ça se passe souvent mal, mais on peut essayer de voir le bon côté des choses. Pour le vaccin Pfizer et pour Moderna, il y a eu des difficultés au début et puis elles ont été résorbées. Et ici à Bruxelles, on fait vraiment une différence entre ces compagnies et AstraZeneca, parce qu'AstraZeneca, il y a un doute sur la bonne foi de la compagnie, sur est-ce qu'elle n'a pas livré les doses européennes à la Grande-Bretagne, plus que... On se demande si c'est pas ça qui s'est passé plutôt que des problèmes de productivité. Ici, vraiment, aujourd'hui, on dit ça roule avec Pfizer, ça roule avec Moderna après les difficultés initiales. Donc, on savait que le dernier vaccin, le vaccin Johnson & Johnson, il n'allait pas arriver tout de suite. C'était prévu qu'il ne soit pas là au premier trimestre, même s'il est autorisé au premier trimestre. Donc, peut-être qu'effectivement, il va y avoir un peu de difficulté au début, mais eux assurent pour l'instant qu'ils vont bien livrer les 200 millions de doses à l'Union européenne dans les délais qui sont prévus.
Et vous avez raison de le souligner, les nouvelles sont plutôt bonnes du côté de Pfizer, qui pourrait peut-être même aller plus vite que prévu. Hein.
Effectivement, ils ont annoncé cette semaine qu'ils mettaient 4 millions de doses en plus, que les Européens pouvaient acheter 4 millions de doses en plus ces 15 prochains jours, des doses que la Commission européenne proposait aux pays comme la France, qui ont des doses où il y a des zones où il y a une circulation des variants comme la Moselle ou Nice. Et voilà, donc ça montre ça que Pfizer est maintenant capable de produire plus même que ce qu'il avait anticipé.
Pourquoi on a si peu de Moderna, Isabelle Horry, en Europe ?
Parce qu'au début, on a fait le choix d'en acheter assez peu. Hein. Le premier contrat, c'était 80 millions de doses et avec une option de 80 millions de doses. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'était, je crois, le vaccin le plus cher de tous. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui ont décliné en fait, la proposition d'en acheter. La Commission européenne a récemment conclu un nouvel accord global pour 300 millions de doses. Donc, peut-être que ça va monter en puissance dans un second temps.
Isabelle Horry, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est un article du New York Times paru aujourd'hui qui explique que 34 millions de doses fabriquées en Europe ont été exportées depuis le 1er février au Royaume-Uni, au Canada, au Mexique, aux États-Unis. On se dit, alors qu'on est en train, les uns et les autres, de courir après les doses, on les exporte ?
Alors, c'est intéressant, c'est parce qu'évidemment, quand on voit ça, ça peut paraître un peu choquant. Alors, en fait, ces doses et ces livraisons, on les connaît précisément parce que depuis la fin janvier, l'Union européenne a mis en place un mécanisme de contrôle des exportations qui permet de savoir précisément ce qui sort de l'Union européenne. Pourquoi elle a mis en place ce mécanisme ? Parce qu'elle avait justement des doutes sur ce que faisait AstraZeneca et sur le fait que peut-être AstraZeneca livrait des doses au Royaume-Uni alors que la compagnie n'assumait pas ses responsabilités face à l'Union européenne. Et donc ce qu'on a aujourd'hui, les chiffres que vous donnez, c'est un peu le résultat depuis 6 semaines. On a une vision très claire de ce qui a été exporté. En réalité, ce qui est exporté, ce sont essentiellement des doses de vaccins Pfizer. Alors il y a aussi un peu de Moderna. Mais il n'y a pas de problème parce que comme Pfizer honore vraiment rigoureusement, et je venais de le dire, même propose plus de doses aux Européens que ce qui était prévu, il n'y a pas de raison d'empêcher ces exportations. Et en revanche, on a vu la semaine dernière que quand AstraZeneca a demandé à exporter des doses vers l'Australie, eh bien ces 250 000 doses qui étaient produites en Italie ont été bloquées par l'Italie avec l'aval de l'Union européenne. Et quelque part, il faut qu'il y ait ce système d'exportation parce que prenez le vaccin qui vient d'être autorisé, voilà. Il est produit aux Pays-Bas, le Johnson & Johnson, pardon, il est produit aux Pays-Bas, mais il est mis en flacon aux États-Unis avant de revenir en Europe. Donc si on commence tous à bloquer les exportations, eh bien on va aussi, nous, avoir des problèmes de livraison de vaccins et peut-être même de livraison de substances actives ou d'ingrédients dont on a besoin pour faire les vaccins.
Vous avez raison, Isabelle Horry, vous avez raison, sauf qu'on a eu l'impression ces derniers temps, et le rappel à l'ordre aujourd'hui même de l'Europe vis-à-vis du Royaume-Uni, qui a encore des doutes sur le fait que le Royaume-Uni continue de bloquer à l'export certaines doses de ses vaccins, on se dit d'autres l'ont fait et d'autres accélèrent leur campagne de vaccination.
Oui, vous avez raison, mais le problème, c'est que alors, ce qu'on a exporté vers le Royaume-Uni, c'est du Pfizer, hein, justement, paraît-il. Les Anglais, en fait, ce n'est pas qu'ils bloquent les exportations, c'est qu'en fait, ils ont finement fait écrire dans les contrats qu'il fallait d'abord servir le Royaume-Uni en priorité avant de servir d'autres parties du monde. Et donc, finalement, la compagnie AstraZeneca, elle dit bah, « moi, j'honore mes engagements contractuels vis-à-vis du Royaume-Uni ». Donc, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. C'est vrai qu'intuitivement, on se dit « ah, mais zut, il faudrait peut-être tout bloquer ». Mais il faut voir l'image d'ensemble et se dire que si tout le monde se met à faire ça, ça risque de devenir problématique.
Ève Roger, c'est vrai que depuis le début, la stratégie européenne, même si au bout du compte, Thierry Breton dit qu'on sera capable de produire 2 à 3 milliards de vaccins d'ici à la fin de l'année, sans doute qu'au bout du compte, on dira c'est bien d'y être allé à 27, mais dans ces mois et ces semaines qui sont difficiles... Ça coince quand même.
Alors, mais bien sûr, ça paraît... Sur le papier, la stratégie, elle est remarquable. C'est-à-dire, on dit, plutôt que chacun achète son vaccin tout seul de son côté, comme l'a fait l'Israël, ou le Royaume-Uni, c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, comme l'a fait l'Israël, achetons ensemble, d'abord pour avoir un meilleur prix, et pour pas laisser des pays plus pauvres ou plus difficiles, qui ont des négociations plus difficiles, sur le bas-côté. Donc, c'est nous, l'Europe, les 27, on achète ensemble, et on distribue les vaccins au prorata de la population. Ça, sur le papier, c'était parfait. C'est-à-dire que c'est solidaire. Enfin, vous voyez, il y a quand même une idéologie.
Une idée européenne.
Voilà, exactement. Non, mais effectivement, l'Europe s'est trompée. Et je crois qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, elle a reconnu qu'elle était un peu naïve. Elle croyait qu'en disant, bon, on achète, on va acheter tant, vous nous livrez tant à telle date, et ben qu'elle recevrait la livraison à telle date. Et puis en fait, elle se rend compte, elle s'est rendue compte, donc ils ont été obligés un peu de taper du poing sur la table, contre les fabricants, contre les laboratoires.
Et en particulier AstraZeneca, encore une fois, c'est ce que disait très justement Isabelle Horry, c'est pas tous les labos qu'il faut peut-être mettre dans le même sac.
C'est ça.
Les difficultés de contrat qu'il y a eu, c'est avec AstraZeneca.
C'est avec AstraZeneca. Et puis, c'est vrai que l'industrie est arrivée plus tard. On n'a pas imaginé ces flux tendus de capacité industrielle. Enfin, il faut quand même imaginer que pour fabriquer un vaccin, il faut 2 ans. Créer une ligne de production, il faut 2 ans. Là, on a essayé de la faire en 4 ou 5 mois. Mais disons que Thierry Breton, qui maintenant s'occupe de ça, il raconte qu'il est obligé d'aller voir combien il y a de plastique, combien il y a de verre, combien il y a de bouchons, comment on lève les goulets d'étranglement. Il appelle les laboratoires tous les jours. Enfin, il faut s'imaginer l'extraordinaire masse de travail et de logistique que ça représente.
Et la pression pour obtenir désormais les doses, parce que c'est devenu le quotidien de milliers, de millions même, on va le dire, de Français, un parcours du combattant, décrocher un rendez-vous, trouver un vaccin. Les listes d'attente s'allongent, y compris pour des personnes qui sont prioritaires. Certains tentent le tout pour le tout, en espérant quand même bénéficier d'une dose de dernière minute. Reportage en région parisienne, Aubry Perrault et Dominique Lemarchand.
À 74 ans, comme la veille, Claude part tenter sa chance.
Où est-ce que vous allez là ?
Bien, je vais au centre de vaccination.
Vous avez rendez-vous ?
Mais je n'ai pas rendez-vous. Il se trouve que le centre de vaccination est juste à côté de chez moi. Donc je vais voir si, à la fin de la séance, il reste des doses.
Si Claude a déjà rendez-vous dans 15 jours, il aimerait bien être vacciné avant, dès que possible. Alors, en fin de journée, il mise sur la chance. Une dose qui n'aurait pas été attribuée.
J'attends une dose.
Une dose ? Voilà. C'est pas la peine d'attendre.
À quelle heure vous finissez ?
Là, c'est fini. La dernière personne vient d'arriver. Donc, on n'a pas de dose ce soir. Et de toute façon, vous n'aurez pas pris comme ça. Si on dit qu'on prend les gens comme ça, tout venant, tout le monde va venir. C'est normal. Hein. Les gens veulent être vaccinés. Donc, ils essaient par tous les moyens d'être vaccinés. Mais voilà, c'est pas l'anarchie non plus.
Non, mais sauf à la dernière minute, s'il reste une petite dose.
Non, il n'y a pas de dose à la dernière minute.
J'ai joué, j'ai perdu, mais je gagnerai à un moment donné.
La loterie du vaccin peut-elle fonctionner ? La Direction générale de la Santé est claire, aucune dose ne doit être jetée, quitte à vacciner le tout venant. Mais dans ce centre, la liste d'attente des candidats éligibles est déjà très longue.
On va appeler 2 nouvelles personnes pour remplacer le couple qui ne peut pas venir aujourd'hui.
D'accord.
On va prendre les 2 personnes sur la liste d'attente qui sont susceptibles de venir dans l'après-midi, dans l'heure qui vient.
D'accord, okay. Entendu.
On a des listes comme ça tous les jours de personnes qui se présentent en haut, plus la liste de la ville, les gens qui appellent la ville ou l'espace senior à Issy-les-Moulineaux.
Des personnes qui n'ont pas encore obtenu de rendez-vous, mais aussi les plus impatients.
Je me permets de vous appeler pour savoir si vous êtes toujours intéressé par la vaccination. Il a déjà eu son injection.
D'accord.
Très bien, entendu.
Vous aurez pensé à nous le dire.
Merci.
Bonjour. Ils sont nombreux à s'être inscrits à plusieurs endroits en espérant profiter d'une dose restante.
Pour maintenant.
C'est une difficulté supplémentaire. Les gens sont inscrits partout. Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas vaccinés au bout de mois et pour eux, ça devient très, très difficile à supporter.
Comme pour cette retraitée. Il y a 15 jours, elle nous expliquait comment elle enchaîne les appels à tous les centres de vaccination autour de chez elle.
Les dotations quotidiennes de vaccins ne nous permettent pas actuellement de répondre à de nouvelles demandes de rendez-vous.
Avec souvent la même réponse.
Bonjour, le centre de vaccination de Sucy est contraint de suspendre temporairement ses prises de rendez-vous en raison d'une insuffisance de vaccins.
Mais pour elle, pas question de baisser les bras face à un virus qui circule de plus en plus fort.
Si j'attrape la Covid, c'est sûr qu'il m'arrivera des ennuis, hein, parce que j'ai quand même des antécédents d'asthme, etc. Et je ne suis pas persuadée que je supporterai une intubation.
Le vaccin, seul véritable espoir après un an de pandémie. Une denrée rare qui, dans ce contexte, peut vite devenir un objet de polémique. Le mois dernier, l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine se retrouve sous le feu des critiques, accusé d'avoir proposé aux membres de son conseil d'administration non prioritaire de les vacciner. Mais aussi l'Hôtel Dieu à Paris, où le syndicat CGT dénonce des passe-droits.
Les équipes sont obligées de refuser des soignants et des personnes âgées vulnérables alors que leur est imposée la vaccination de personnel de la mairie de Paris et autres VIP.
L'hôpital et la mairie de Paris réfutent ces accusations. Le vaccin, devenu objet de toutes les convoitises en France comme à l'étranger, et ça, certains pays l'ont bien compris. Dans ce spot publicitaire, l'île de Cuba invite les vacanciers en leur proposant un nouveau service à l'avenir.
Les touristes auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de se faire vacciner à Cuba.
Mojito et vaccin, le cocktail de Cuba pour renouer avec les touristes du monde entier et retrouver l'une de ses premières sources de revenus.
En regardant ce reportage, je disais, mais si on va à Cuba se faire vacciner, c'est avec quel vaccin, hein? On ne sait pas, le vaccin chinois ou le vaccin russe? Bon, on verra, je vous donnerai la réponse si on l'a d'ici à la fin de l'émission. Cette question, après ce reportage, et ça parle, je pense, à tous les gens qui nous regardent, on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui est en train d'essayer de se faire vacciner et qui galère. Un nouveau vaccin et ma mère de 84 ans qui attend toujours une disponibilité, la plus proche est à 300 km.
Il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres de vaccination sont réservés aux personnes de plus de 75 ans et vous pouvez prendre rendez-vous soit par téléphone, soit par Internet. Aujourd'hui, les rendez-vous se libèrent au fil de l'eau, c'est-à-dire presque peut-être 2 ou 3 jours avant, en fonction du nombre de doses livrées. C'est-à-dire qu'on ne veut plus annuler des rendez-vous. Donc, on est sûr d'avoir les doses et seulement après, on libère les rendez-vous. Et quand les rendez-vous sont libérés, les prioritaires, ce sont ceux qui sont sur liste d'attente. Donc, en réalité, la liste d'attente remplit les rendez-vous libérés, ce qui fait qu'à l'arrivée, vous avez le sentiment que jamais les rendez-vous s'ouvrent parce que la liste d'attente a rempli au fur et à mesure. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, 70% des personnes de 75 ans et plus ne sont pas vaccinées.
C'est énorme.
70%, ouais. C'est énorme. Et c'est vrai que ce sentiment que personne ne répond au téléphone, comme on l'a vu dans le reportage, qu'on n'y arrivera jamais, c'est vrai que tout le monde connaît cette situation-là, mais c'est vrai que ça a été encore pire quand on a annulé les rendez-vous. Mm-hmm. Donc c'est vrai que depuis, on attend à peu près, encore chaque fois on le dit, encore un mois, pour pouvoir que cette solution se libère. Mais il y a encore une toute petite chose maintenant qui a changé, c'est-à-dire que quand vous avez 75 ans et plus, vous pouvez appeler votre médecin traitant et lui demander à être vacciné avec l'AstraZeneca, effectivement.
Non, mais c'est surtout que ce n'est pas si simple. On a vu que, je me tourne peut-être vers Philippe Amouyel, pour avoir votre sentiment là-dessus, on a vu que la stratégie que tout le monde avait réclamée, en disant il faut passer par les généralistes, ce sera plus simple, et puis il y a une relation de confiance avec le patient, on va appeler son généraliste en disant j'ai des comorbidités, puis on sera vacciné. En fait, ça, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et on a une stratégie de vaccination qui donne le sentiment, et c'est peut-être une bonne chose, mais de s'ajuster au fil de l'eau.
Et oui, mais parce que c'est essentiellement à cause du conditionnement des doses. Il y a 10 doses dans un vaccin AstraZeneca, il faut essayer de les faire sur la journée. Donc pour un médecin généraliste qui est tout seul, isolé dans son cabinet, qui n'a pas d'assistante, qui travaille avec Doctolib pour prendre ses rendez-vous, c'est très difficile d'organiser sa clientèle pour justement identifier les personnes de 75 ans. Alors, certains ont été découragés, d'autres ont continué dans cette direction, avaient anticipé ça, finalement ont été un peu refroidis par ce qui s'est passé cette semaine avec les doses qui ont été réservées aux pharmaciens. Mais je crois qu'il faut absolument les impliquer. Il ne faut pas refaire les erreurs qu'on a fait dans la grippe H1N1. C'était bien parti. J'espère que le gouvernement va rattraper un peu les irritations qui ont lieu actuellement dans le milieu, parce qu'on va avoir besoin des médecins généralistes, on va avoir besoin des pharmaciens, des infirmières. Si on veut faire 300 000 à 350 000 vaccinations par jour, samedi et dimanche compris, pour atteindre les objectifs fixés.
Comment ça se passe à l'hôpital, Benjamin Davidot? Vous les avez, les doses?
C'est toujours compliqué, c'est-à-dire que c'est un jeu d'équilibriste. Vous savez, la veille pour le lendemain, si vous allez avoir les doses pour la semaine. Et puis, il y a eu cette accélération le week-end dernier qui s'est fait très brutalement et qui, du coup, a chamboulé aussi les agendas. On est dans un système qui est aussi complexe qu'en ville. Et moi, je plaide d'ailleurs pour ces vaccins qui peuvent être conservés au frigidaire, de les sortir de l'hôpital pour vacciner massivement en ambulatoire. Aujourd'hui, il faut démocratiser la vaccination. Je crois qu'il faut que ça devienne un acte comme se faire vacciner contre la grippe et que ça ne soit pas une opération commando à chaque fois avec
une complexité. Mais le problème, c'est qu'il faut des prises de rendez-vous parce qu'on est toujours soumis à cette tension sur le nombre de doses.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et donc, il faut, pour ces raisons-là, qu'on ait aussi les acteurs. Parce que, comme ça a été bien expliqué, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr les flacons, mais il y a la logistique qui va avec ces flacons, ce conditionnement, parce que ce n'est pas si facile. Les généralistes qui avaient réclamé la vaccination se rendent compte que d'abord, il faut une liste, qu'il faut une logistique, qu'il faut une secrétaire, qu'il faut toute la partie administrative, y compris à l'hôpital, et qu'encore une fois, il faut une surveillance. C'est la particularité par rapport au vaccin de la grippe, qui nécessite d'avoir d'abord un local. Et je pense qu'on va aller beaucoup plus vite lorsqu'on autorisera la vaccination avec la pharmacie.
En encore faudrait-il qu'on ait des doses.
Oui, mais ça va venir. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être dans une politique du en même temps aujourd'hui. Parce que si on dit on attend, eh bien on rate le coche, comme ça a été bien expliqué. On fait des files d'attente qui n'en finissent plus. Et la réalité, c'est que ça va se faire et que le plus on fait intervenir les différents acteurs, plus on y arrivera.
Et puis on va passer au vaccinodrome. Enfin. Hein, à Marseille, lundi prochain, donc on va vacciner au Vélodrome.
Voilà, au Vélodrome de Marseille.
Avec l'objectif quand même de vacciner, ça paraît pas énorme, pardon, 1500 personnes par jour.
C'est pas énorme, mais c'est aussi, encore une fois, c'est la question de la dose. Par exemple, les médecins aujourd'hui, ils ont 1 200 000 doses. Aujourd'hui et demain, ils vont les recevoir, ce 1 200 000 doses. Donc maintenant, le frein, moi, je pense qu'il est plutôt sur l'image de l'AstraZeneca que sur le nombre de vaccinés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous faire vacciner, je suis sûre qu'en appelant, enfin, je crois qu'il y a à peu près les deux tiers des médecins généralistes qui ont des flacons aujourd'hui, si vous appelez votre médecin généraliste, avec un peu de chance, vous pourrez avoir un rendez-vous.
Et d'ailleurs, Olivier Véran dit qu'on va continuer à vacciner avec le AstraZeneca en France, malgré ce qu'on a discuté en début d'émission. Isabelle Horry, les stratégies de vaccination, est-ce qu'elles sont très différentes quand on regarde un petit peu ce qui se passe chez nos voisins européens? Est-ce qu'eux aussi, ils ajustent au fil de l'eau? Est-ce qu'il y a un pays européen, je mets de côté ceux qui sont sortis, le Royaume-Uni, qui fait figure de modèle?
C'est une bonne question, parce que alors moi j'ai plutôt des mauvais exemples.
Ah bon, allons-y, en fait, alors ça va nous rassurer, allez-y.
Je pense que justement, regarde, alors déjà le pays dans lequel je vis, la Belgique, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que nous on n'a aucune idée de quand on va être vacciné, ça recule sans arrêt, il y a des problèmes d'organisation logistique, informatique, il y a des morts qui reçoivent des convocations, enfin vraiment, c'est assez désespérant ici, donc il faut se comparer, parfois ça permet de se rassurer. Regardez, en Italie, Mario Draghi a nommé un général responsable de la stratégie de vaccination. Donc, je crois que c'est aussi une indication qu'il voulait que les choses se mettent en ordre. En Allemagne, il y a des affrontements entre le niveau fédéral et les niveaux régionaux qui sont compétents pour la santé sur la stratégie. Ils viennent de décider qu'enfin, ils allaient ouvrir aux médecins libéraux, alors qu'eux, ils avaient plutôt misé sur des centres de vaccination. Un peu partout, on ajuste au fur et à mesure en fonction des vaccins qui arrivent, en fonction des réticences de la population. Il y a des expériences qui sont faites. Par exemple, en Allemagne, ils ont décidé d'ouvrir un créneau. Je crois que c'est dans la ville de Duisbourg. Ils ont ouvert un créneau en fin d'après-midi où les volontaires peuvent prendre des rendez-vous pour récupérer les doses qui n'auraient pas été inoculées dans la journée. En Israël, vous vous souvenez, les passants, enfin les gens pouvaient faire la queue le soir pour avoir des doses. Donc, il y a beaucoup d'exemples à prendre un peu partout comme ça. Mais c'est vrai que ça, on sent que partout et dans toute l'Europe, ici à Bruxelles, ça remonte souvent que les vaccins, OK, il y a un problème de dose, mais la Commission prend toujours aussi le temps de nous dire qu'il y a un problème de livraison de doses, mais il y a aussi un problème de stratégie de vaccination et que ça, c'est un problème dans les États membres.
C'est important de rappeler, aujourd'hui, c'est 6,2% de la population qui a eu au moins une première dose, ce qui est très peu. Mais en Allemagne, c'est pas mieux. Enfin, c'est peut-être 6,4. C'est pareil au Portugal, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Espagne. Donc, il faut pas croire qu'on est
On
est tous dans la même galère. C'est ça que je voulais dire.
Oui, parce qu'il manque des doses. Juste, on entendait Isabelle Horry dire qu'en Italie, ils ont fait appel à un général. C'est vrai que c'est des choses qu'on a beaucoup entendues dans la classe politique, de dire il faut mobiliser l'armée. Ça permet pas de créer de nouvelles
doses. Je pense qu'ils prennent un général parce que le général a le cerveau qu'il faut. Mais nous, on a une task force vaccination qui est au sein du ministère de la Santé et à Bercy. Et à sa tête, il y a une jeune femme qui a 32 ans. Et je peux vous dire, elle n'est pas générale, mais elle pourrait l'être.
C'est quoi son rôle ?
C'est elle qui organise la logistique de toute la vaccination.
On considère que c'est un succès ?
Alors, il faudra la connaître. Bon. Peut-être un jour, elle sortira de l'ombre, parce qu'elle ne veut pas apparaître. Mais vous verrez, elle est assez impressionnante.
Alors que la campagne de vaccination, on l'a dit, tente de trouver son rythme de croisière. En Île-de-France, on a commencé à déprogrammer des opérations. La situation se dégrade, mais pour l'instant, le gouvernement refuse d'appliquer de nouvelles mesures de restriction, comme dans les Alpes-Maritimes ou à Dunkerque, où le confinement du week-end a été prolongé. Walid Berissoul et Christophe Roquet.
En Île-de-France, le spectre de la saturation des services de réanimation est de retour. En début de semaine, un ordre ferme a été donné aux hôpitaux franciliens. Déprogrammer 40% de leurs opérations afin de faire de la place aux patients Covid. Une fois encore, pour ce médecin, le confinement doit être une option.
Il y a un élément majeur à comprendre, c'est que c'est finalement pas nous qui décidons, c'est le virus et c'est la pandémie. Et si vraiment il y avait une catastrophe qui survenait, je crois qu'on n'aurait pas d'autre choix que de confiner pour éviter le débordement des hôpitaux.
La tension hospitalière s'est encore accrue ces derniers jours. Des patients vont même être transférés vers d'autres régions. Mais les autorités de santé s'en tiennent là, pour l'instant.
Nous libérons des lits, nous libérons beaucoup de lits, des centaines de lits, et nous suivons la situation jour après jour. Le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité parce que cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'État si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir.
Avec la Côte d'Azur et les Hauts-de-France, la région francilienne affiche les chiffres les plus inquiétants. Le taux d'incidence en Seine-Saint-Denis est même passé au-dessus de celui du Pas-de-Calais, 442 contre 407. Pourtant, ce département s'apprête à vivre son deuxième week-end confiné. Un paradoxe sanitaire qui, sur les bancs de l'Assemblée nationale, a vite trouvé sa traduction politique.
Monsieur le Premier ministre, pour un même taux d'incidence, vous créez deux catégories de départements. Les départements de province que vous confinez d'une part et les départements d'Île-de-France que vous refusez de confiner. Que vous ont fait les habitants du Pas-de-Calais pour que vous leur fassiez subir ce deux poids, deux mesures et cette double peine?
Alors depuis plusieurs jours, le gouvernement tente de se justifier.
La Seine-Saint-Denis, c'est toute l'Île-de-France, parce qu'il y a de telles interactions sociales entre un département francilien et un autre que mettre en place des mesures le week-end en Seine-Saint-Denis, ça voudrait dire les mettre en place dans toute l'Île-de-France.
Et la majorité cherche le ton juste pour expliquer que l'Île-de-France, avec son poids économique et ses 12 millions d'habitants, n'est pas tout à fait une région comme les autres.
Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de confiner l'Île-de-France, donc il faut le dire très clairement. Pas de volonté politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de demande, mais ça veut dire que quelque part, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, qui sont économiques, qui sont psychologiques, qui sont aussi politiques, pour des raisons que moi je crains un phénomène d'éviction aussi. Si on confine l'Île-de-France le week-end, on sait très bien qu'il y en aura certains qui pourront la quitter, et pas d'autres.
Un exode massif des Franciliens, une capitale désertée, un an après ces images. Le reconfinement de l'Île-de-France prendrait des airs de retour à la case départ et signerait l'échec du pari d'Emmanuel Macron. Un pari que certains scientifiques contestent aujourd'hui de plus en plus ouvertement.
On accepte de vivre avec un taux de circulation virale qui était jusqu'à il y a peu de temps l'un des plus élevés, peut-être le plus élevé, l'un des plus élevés d'Europe. Je crois que c'est une erreur sanitaire, ça c'est évidemment une erreur sanitaire, et je crois que c'est une erreur politique d'avoir fait cette erreur sanitaire.
Alors en attendant, il va falloir tenir, en comptant sur plus de vaccins et sur le maintien du couvre-feu à 18h. Une mesure que certains élus, comme la maire de Paris, voudraient pourtant aujourd'hui alléger.
À 18h, on est en milieu d'après-midi à Paris. Disons les choses telles qu'elles sont. On commence un peu plus tard le matin et évidemment, on finit un petit peu plus tard le soir. Donc, je pense qu'il faudrait adapter. Je n'ai pas un horaire à indiquer. Mais
ça vous semble trop tôt, 18h,
ça me paraît beaucoup trop tôt.
Un aménagement de peine réclamé dans la capitale. Alors ailleurs aussi, on adopte des restrictions sanitaires à la carte. Nice s'apprête à vivre son troisième week-end confiné. Mais son maire, Christian Estrosi, entend cette fois-ci autoriser l'accès à la promenade des Anglais, tout en demandant l'annulation de l'arrivée du Paris-Nice. Une question, dit-il, de cohérence.
Alors, nous allons faire un point sur la situation. Cette question d'abord, quand on compare la largeur de nos plages à Calais et les quais de Seine à Paris, on peine à comprendre ce confinement le week-end. Éric, dans le Pas-de-Calais.
Mais je crois que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas comparer l'Île-de-France avec le reste des régions. Pourquoi ? On prend l'exemple des hôpitaux de la science publique. Il y a 39 hôpitaux dont la majeure partie sont l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération les autres indicateurs qu'on prenait historiques. C'est-à-dire d'abord le pourcentage de saturation et aussi la capacité d'accueil. Et c'est ça qui est fou. On leurre les Français lorsqu'on se base uniquement sur ce taux d'incidence, qui d'ailleurs, on doit le rappeler, est rapporté à 7 jours. Parce que souvent, ça veut dire que d'abord, il y a un nombre limité et donc de malades qui vont se retrouver à l'hôpital. Et donc, il faut bien comprendre que c'est la capacité d'accepter ces malades, notamment en réanimation. Et c'est actuellement, malheureusement, là où il y a le plus de tensions avec l'augmentation des patients en réanimation.
Ce que dit le ministre de la Santé aujourd'hui, il dit toutes les 12 minutes, un Francilien va en réa.
Oui, c'est malheureusement catastrophique. Et la problématique, ce sont les lits d'aval. On n'en parle jamais assez. C'est-à-dire que ces malades qui restent en réanimation restent malheureusement de plus en plus longtemps parce qu'ils sont de plus en plus graves. On s'était félicité au mois d'octobre qu'on n'intubait plus les malades et qu'on faisait ce qu'on appelle de l'optiflow, de l'oxygène à haut débit. Aujourd'hui, dans ma réanimation, je peux vous dire que les trois quarts des patients sont intubés ventilés et qu'en attendant, l'optiflow est un système en attendant de pouvoir passer en réanimation. Donc la situation est extrêmement difficile.
Avec des patients qui arrivent et qui sont plus jeunes.
Avec des patients qui arrivent qui sont plus jeunes. Et sans faire de mauvais jeu de mots, on est exactement comme au mois de mars, mais plus 2021, mais 2020.
C'est vrai, la situation est identique ?
La situation est quasi identique.
Philippe Amouyel.
Alors, je crois qu'il y a deux questions. En effet, hein, il n'y a pas que le taux d'incidence. Il y a également la saturation des hôpitaux. Les Hauts-de-France, c'est 111% de saturation. L'Île-de-France, ça doit être encore 76. Je n'ai pas vu les derniers chiffres de saturation. Donc, il y a encore de la marge de ce côté-là, ce qui explique qu'il n'y a pas de confinement. Il faut bien le comprendre. La seule question qu'on peut se poser, c'est comme le disait Axel Kahn, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas simultanément essayer de faire baisser la charge virale qu'on connaît actuellement dans la population ? Par exemple, en lançant des dépistages systématiques, en mettant plus l'accent sur l'isolement des sujets, puisqu'il y a énormément de gens qui se promènent avec le virus, malheureusement sans le savoir, qui sont asymptomatiques. Deuxième point qu'on commence à voir, c'est que le virus, le nouveau variant qui a pris la main sur l'ensemble de la France actuellement, d'après les études qui sortent, et même des très récentes, semble être beaucoup plus sévère, entraîner des formes sévères, entraîner une mortalité plus importante. Les études anglaises parlent de plus 64%, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs le fait de la saturation rapide des réanimations, alors que l'hospitalisation, elle, ne suit pas. C'est-à-dire que les gens passent directement à la case réanimation, et aujourd'hui, à 8 personnes près, je crois qu'on a atteint les 4000 personnes en réanimation en France. Donc là, il y a une vraie question à se poser sur, OK, sur la saturation, mais il faut voir aussi qu'on n'a plus tout à fait la même épidémie.
Alors, sur la situation en Île-de-France, c'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres, on est à 1070 personnes en réanimation. Et aujourd'hui, au sein de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, ils disaient à 1500, il faut faire quelque chose. Et 1500, on va y arriver dans quelques jours. Ouais. Alors, quelque chose, toute la question est de savoir qu'est-ce que c'est que ce quelque chose.
Confinement du week-end.
Est-ce que c'est confinement du week-end ? Alors, c'est vrai qu'en Île-de-France, on peut imaginer qu'une partie des gens prendront leur voiture et iront se balader à côté, et donc ce qui n'est pas forcément la chose la plus efficace. Ou alors confinement total, mais confinement total, ça devient politiquement difficile à gérer, parce que vous confinez l'Île-de-France, c'est-à-dire 12 millions de personnes, ça veut dire que vous confinez la France.
Il y a des solutions alternatives ?
Alors,
Est-ce qu'ils travaillent là-dessus ?
Ils travaillent sur une hypothèse, sur l'hypothèse du... Ils ne sont pas complètement opposés au confinement du week-end, parce que c'est vrai qu'à Nice, c'est vrai qu'à Dunkerque, on a vu qu'il commençait à y avoir, il pouvait y avoir des effets. Mais c'est vrai qu'en Île-de-France, c'est extrêmement complexe, puisque vous le savez, il y a une très forte densité de la population, il y a des appartements très exigus. Anne Hidalgo, la maire de Paris, l'a rappelé. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à supporter.
Et puis, on entendait Olivier Véran qui disait que ça n'a pas de sens de confiner la Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis, c'est l'Île-de-France.
C'est ça. Alors, il y a des solutions qui sont avant de prendre une décision majeure, qui pourrait être prise en début de semaine prochaine, si on arrive à ce seuil de 1500, c'est les évacuations sanitaires. Là, ça s'est décidé.
Ça a commencé, il l'a dit, il y a une centaine de patients de l'Île-de-France qui seront transférés.
Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire en train, il y a 48 malades dans un train, ça fait deux trains. Ouais. Donc la question aussi, c'est où est-ce qu'on les envoie ? Parce que c'est vrai que la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine ont déjà été sollicitées par les régions Rhône-Alpes, Grand Est. Donc c'est vrai que la question, c'est très compliqué de savoir où on les envoie, et puis combien de personnes on envoie comme ça. Il y a le privé qui va être encore plus mobilisé. Et puis, il y a ce risque qui a des risques d'effets très secondaires, c'est de continuer à déprogrammer. Vous savez qu'aujourd'hui, en Île-de-France, on déprogramme 40%
déjà.
Et là, la question, elle se pose de passer directement de 40 à 80%. Il n'y aura pas de palier intermédiaire. Donc, vous voyez toutes les solutions qui en sont sans en être. Quoi.
Avec ce que je retiens de ce que vous nous expliquez, que la solution du reconfinement, puisque vous disiez, on est à la situation du mois de mars, ça fait presque un an, du confinement national et du vrai confinement brutal. C'est une solution qui, pour l'instant, n'est pas évoquée au sommet de l'État.
Il y a un an, on ne connaissait pas tous les effets non plus du confinement psychologique.
Juste, Philippe Amouyal, on a parlé ce soir de la vaccination, on parle de cette reprise épidémique avec ce que vous avez dit et ce qu'on a retenu, que les variants sont plus dangereux, 64% plus mortels, ces chiffres que vous avez indiqués tout à l'heure. Et là, on se dit, oh, mon Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train de la perdre, cette course contre la montre, avec des vaccins pour certains qui ont une mauvaise cote, avec des doses qui n'arrivent pas comme elles devraient arriver ?
On a encore un trou de souris de passage.
Ah.
Là, on fait plutôt des mesures au coup par coup. La question qu'on ne peut pas gérer, c'est l'alimentation de ces réanimations. C'est-à-dire que même si on libère des places, même si on ouvre des places, on ne stoppe pas le processus d'arrivée des gens en réanimation. Ça ne pourrait être fait que soit par un isolement très en amont, soit par une vaccination massive. On est malheureusement à la limite de ces deux éventualités. Je pense qu'en effet, il faut tenir. Pour ce qui est du confinement global, total, ça, je pense que ça n'a plus de raison d'être. En revanche, là où on se contamine, ça reste quand même le week-end. On peut plus se contaminer la semaine avec le couvre-feu.
Ah bah non,
avec
ça, c'est sûr.
Ben oui, donc il ne reste plus que ça. Et on voit déjà à Dunkerque, en surveillant les chiffres de Dunkerque, qu'ils sont passés de 900 à 700 d'incidence. Donc, c'est en train de marcher. Donc ça veut bien dire que c'est là que se passe l'enjeu. Alors est-ce qu'il faut le faire? Bon, question difficile à prendre pour les politiques.
Et solution et décision qui sera évidemment politique. Vous vouliez dire un mot, Benjamin David, oui, sur ce trou de souris?
Oui, je voulais rebondir sur le fait que je pense que ce qui nous a manqué depuis un an, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas tracer. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on sait dépister, on sait dépister massivement. Mais en fait, on est obligé finalement de fermer les écoutilles, de mettre les verrous sur le peu de lien social qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre exactement, précisément, les situations où on se contamine. Parce que d'ailleurs...
Toujours pas ?
Ben, toujours pas, en partie. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui se contaminent de façon asymptomatique au sein de la famille. Ouais. C'est ça que je vais expliquer. Et aujourd'hui, il nous manque quand même ces outils pour dire précisément... Moi, je vois tous les jours des patients hospitalisés qui ont du mal à vous dire où est-ce qu'ils se sont contaminés à tel moment. Et c'est ça qui fait malheureusement que malgré tous les efforts individuels des Français, on continue à se contaminer parce qu'on n'a pas cet outil de traçage qui est capable d'anticiper avec de l'intelligence artificielle où seront les prochains clusters et comment faire justement pour appuyer sur le frein. Il y a une énorme disparité, on n'en a pas parlé, dans les Pyrénées-Atlantiques, sans me tromper, où on ne sait pas pourquoi il y a si peu de cas. Si peu de cas. Et donc, il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui nous échappent. Et tant qu'on n'aura pas compris ce qui explique ces disparités, et ce n'est pas que les variants, eh bien, on n'arrivera pas à contrôler l'épidémie.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Vaut-il mieux attendre pour se faire vacciner ou peut-on le faire avec AstraZeneca sans crainte? Je pense qu'il y a beaucoup de gens ce soir qui regardent l'émission qui se posent cette question. En tout cas, c'est le cas de Corinne dans le Val-de-Marne. Peut-être Philippe Amouyel sur cette question.
Bah, vous me connaissez là-dessus. Hein. Oui, il faut se faire vacciner. La probabilité de faire une forme grave, surtout actuellement avec ces nouveaux variants, est bien plus importante que d'avoir une éventuelle faiblesse qu'on aurait pu avoir de toute façon pour d'autres raisons.
Ou alors un petit peu de fièvre pendant deux jours.
Alors ça, vraiment, je voudrais revenir là-dessus, ces effets indésirables prouvent que ces vaccins sont efficaces. Qu'un produit qui n'a pas d'effet indésirable, la plupart du temps, il a peut-être un peu moins d'action. Donc c'est un élément positif et vous pouvez même prendre le paracétamol en préventif une ou deux heures après avoir fait l'injection. C'est ce que font les internes actuellement à l'hôpital et les médecins.
J'ai 71 ans et j'ai été vaccinée ce matin avec le vaccin AstraZeneca. Tout va bien, même pas malade. Ben voilà. Oh, tant mieux. Hein,
c'est, maintenant, c'est 12 semaines la deuxième dose. Donc, tranquille pendant 3 mois.
Comment obliger les soignants à se faire vacciner quand le vaccin AstraZeneca vient d'être suspendu dans plusieurs pays? C'est vrai qu'il y a eu une forme de scepticisme, de doute de la part des soignants qui voulaient le Pfizer.
Écoutez, c'est mon quotidien, je lutte encore avant de venir. On m'a attrapé dans la cour de l'hôpital pour me demander suite à cette annonce. Je crois que la première chose d'abord, c'est la pédagogie, c'est expliquer. Et c'est expliquer aussi la situation particulière des soignants. On disait tout à l'heure qu'il y a des situations où on ne se rendait pas compte qu'on se contaminait. Il ne faut pas oublier que l'hôpital est un lieu majeur de contamination. Aujourd'hui, c'est en phase de devenir la première contamination nosocomiale. Et encore une fois, le plus on se met dans une stratégie d'attente, de dire ben, « j'attendrai le prochain », le plus on augmente ce risque de se retrouver malade et surtout d'être absent soi-même face aux malades au plus haut de la crise. Et c'est ça, notre corps de métier, c'est de soigner les gens.
Ça repose encore sur le libre arbitre, mais en Israël, 80 soignants étaient mis à pied parce qu'ils refusaient la vaccination.
Oui, mais je sais pas ce qu'il faut en dire. Je pense que ça se passerait probablement pas comme ça ici. Ouais. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive, et l'impression vraiment que j'ai depuis 7 jours, c'est qu'il y a une volonté, il y a un message qui a été entendu. Si on le met au prorata de la vaccination, tout à l'heure, on disait 6% de la population française, il y a plus de 30% des soignants, donc il y a 5 fois plus de soignants de vaccinés que la population. Je pense que aussi, c'est une question de dose, pour revenir à la question que vous m'expliquiez. Et je pense que tout le monde a cœur de bien faire, simplement... Il y a aussi des soignants qui ne se vaccinent pas parce qu'ils l'ont déjà eu, on l'oublie. Ça représente 20%, c'est mon cas. Et je ne suis pas revacciné, justement. Oui. Et donc, il y a une pédagogie, il y a un processus, que ça va prendre du temps, mais qu'on y arrivera.
Pourquoi cette guerre entre médecins et pharmaciens pour vacciner?
Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. C'est une guerre qui a toujours existé. C'est-à-dire que les médecins refusent que les pharmaciens prennent leur boulot, en quelque sorte. Ils ne veulent pas. Donc, en fait, on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas, où le gouvernement a un peu joué un peu les uns contre les autres. Il a dit aux médecins, bon, vous n'y allez pas assez. Les 280 000 doses qu'on va avoir, ben là, on va les donner aux pharmaciens. Alors, vous avez entendu le tollé. Donc, en fait, c'est peut-être un jeu, peut-être volontaire ou involontaire, mais qui va permettre de pousser un peu la vaccination, d'aiguillonner un peu les médecins généralistes.
On attend avec impatience le vaccin Johnson & Johnson et son injection unique. La pandémie s'arrêtera-t-elle plus rapidement grâce à lui? C'est le pari qu'on fait au niveau européen. Isabelle Auré, en tout cas, ça a été vécu comme une excellente nouvelle.
Oui, c'est clair. Et puis, il faut se rappeler qu'au total, il y a 2,6 milliards de doses de vaccins qui ont été commandées par l'Union européenne. Donc, au fur et à mesure qu'ils sont tous autorisés, on en attend encore deux ou trois. eh bien, ces doses dont vous parlez, on sent que ça vous préoccupe, elles vont finir par arriver.
Mais je vous assure que ça préoccupe tous les gens qui nous regardent ce soir.
Non, je sais rien, mais je disais vous.
Sait-on si le vaccin Johnson & Johnson est efficace contre les variants, Philippe Amouyel?
Oui, alors dans l'étude de qui a été mise en place, ils ont fait un essai chez 5600 individus sud-africains, habitants d'Afrique du Sud, dans lequel c'est 95% de variants sud-africains. Et là, ils ont une efficacité de 57% sur les formes graves au 28e jour de la vaccination. Donc oui, sur le variant sud-africain, il a l'air d'être actif. C'est un des variants sur lequel on avait des doutes pour les autres vaccins, mais au moins celui-là semble être actif.
Oui, c'est vrai que ça a alimenté beaucoup d'inquiétudes.
C'est pour ça que ce Johnson & Johnson, il a très bonne presse. C'est grâce à cette efficacité. Enfin, c'est efficace, 56% sur le variant sud-africain. Ça, c'est sûr que ça joue un rôle énorme.
Qu'advient-il du vaccin Moderna qui devait être produit courant en mars en France? Est-ce qu'on avait dit ça?
Oui, alors c'est-à-dire que Pfizer va avoir une usine qui va commencer la semaine prochaine, je crois, en Eure-et-Loire. Et puis en Indre-et-Loire, là, Moderna va pouvoir fabriquer. Enfin, c'est même pas fabriquer, c'est peut-être juste mettre un flacon, en tout cas assembler. Mais disons que de toute façon, fabriquer en Eure-et-Loire ou en Indre-et-Loire, ça sera quand même le stock qui ira à l'Europe, puisque comme vous le savez, l'Europe distribue ensuite.
Et puisqu'on a décidé de ce soir de ne donner que des bonnes nouvelles, le patron du laboratoire Pfizer a annoncé cet après-midi qu'il pourrait produire 20% de plus de vaccins qu'initialement prévu. Oui.
Je voulais juste rajouter un mot par rapport à l'histoire des variants. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'en France, les variants brésiliens, sud-africains, c'est 5 à 6%. Donc ça veut dire que lorsqu'on se fait vacciner, en 95% des cas, on va se faire vacciner face aux autres variants. Et donc il ne faut pas que les variants soient un frein à la vaccination. Je le dis et je le répète, c'est très important.
Philippe Amouyel, il y a un variant français ou pas encore?
C'est le risque de laisser courir le virus à cette fréquence, puisque plus il court, plus il se réplique, plus il y a de risques qu'il mute à nouveau et qu'il y ait une mutation spécifique en France. Alors, est-ce qu'elle sera avantageuse ou pas? On n'en sait rien, mais voilà, il faut rester quand même attentif. C'est pour ça qu'il faut baisser cette pression de toute façon.
Un virus peut muter et être moins dangereux?
C'est rare, c'est vraiment rare, parce que ça signe sa fin. Généralement, il s'est peut-être trompé, mais généralement, il est souvent plus transmissible, parce que c'est quand même son objectif dans la vie, quoi, c'est de se reproduire.
J'ai 40 ans et je suis sujet à risque. Quand puis-je espérer être vaccinée exactement?
Alors, ça dépend de degré de risque, parce qu'il y a les 800 000 à très très haut risque qui peuvent se faire vacciner dès maintenant. Donc, on peut imaginer, si c'est un risque léger, peut-être à partir de la mi-mai ou juin.
En tout cas, il n'y a plus d'objectifs clairement désignés par tranche d'âge de la part du gouvernement.
Si, mais vous savez, à chaque fois, c'est un peu repoussé. Ils ont juin pour être sûr.
Ils ont gardé l'objectif de tous les Français vaccinés avant la fin, ceux qui le souhaitent avant la fin de l'été?
Oui, absolument.
D'accord. Pourra-t-on choisir son vaccin lorsque la vaccination sera ouverte à tous?
Alors, ce que j'ai lu dans Le Parisien ce matin, Marie-Paul Kieny, présidente de la commission Covid-19, elle dit pas avant 2023-2024. Donc, en fait, il ne faut pas l'espérer avant de pouvoir le choisir, c'est sans doute.
A-t-on observé des décès ou des effets secondaires avec les vaccins Pfizer ou Moderna?
En tout cas, c'est la même histoire que ce qu'on a évoqué pour AstraZeneca, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Et puis, souvenez-vous, on avait beaucoup évoqué avec ce principe de précaution, probablement dû aux excipients au polyéthylène glycol sur les vaccins Pfizer et Moderna, qui sont l'enrobage qui permet de stabiliser l'ARN messager chez des gens qui avaient des antécédents d'allergie avec un risque de faire une anaphylaxie. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on surveille ces gens-là pour ne pas qu'ils fassent de complications vaccinales.
Et on rappelle que sur le AstraZeneca qui a été suspendu dans 3 pays européens, le ministre de la Santé vient dire que la vaccination continuerait avec le AstraZeneca. Il s'agit d'un principe de précaution et des enquêtes sont en cours. À quand un vaccin français? Ah oui, c'est vrai, contre le Covid-19. Alors
écoutez, moi, je suis comme vous, j'écoute ce qui se passe et j'espère que Sanofi Pasteur réussira à la fin de l'année l'exploit de reprendre les essais sur le vaccin, mais qui doit faire rappeler justement qu'il y a un processus très important dans les premières phases de vaccination dont on ne parle pas, qui est la sécurité, l'efficacité avant la mise à disposition des
Philippe
vaccins.
Philippe Amouyel, vous avez des informations sur le vaccin français?
Non, rien de plus. Le PDG de l'INSERM a dit qu'il serait disponible début du premier trimestre 2022. Mais voilà, rien de plus. Pareil,
dernière question d'Adrien dans les Bouches-du-Rhône. Doit-on déjà s'inquiéter de l'arrivée d'une troisième vague de Covid-19 totalement hors de contrôle sur le sol français? Philippe Amouyel.
On n'en sait rien, on va voir. Il faut voir ça jour après jour. La question, c'est est-ce qu'on est déjà dans une troisième vague ou est-ce qu'on continue notre deuxième vague? Parce que ça monte quand même dans ce contexte-là. On ne peut pas le dire. Les prévisions, malheureusement, sont plutôt pour la fin du mois de mars. Ouais. sur une augmentation. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on arrivera à passer par le petit trou de souris et éviter cette
On va terminer, si vous le voulez bien, par le petit trou de souris. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.